Bonjour et bienvenue dans ce podcast du Petit Écotier, le podcast sur la Corée du Sud. Je m'appelle David et je réside en Corée du Sud depuis plus de 12 ans. Tous les week-ends, je vous propose un épisode sur les tendances en Corée, le tourisme, les faits de société, le monde culturel ou l'histoire. Si la Corée vous intéresse pour la visiter ou bien pour y vivre, ou tout simplement parce que vous êtes curieux, alors ce podcast est fait pour vous. Ce podcast, il se déguste comme un club sandwich dans le TGV ou un samgakimbap dans un GS25, comme on dit ici. On ne peut pas s'arrêter tellement c'est bon. En Corée, la randonnée, c'est la santé. Qui n'a pas été surpris, en arrivant la première fois à Séoul, de constater que cette gigantesque capitale est cernée par les montagnes. Au nord ou au sud, à l'intérieur ou à l'extérieur, quel que soit l'endroit où on se situe, il y a presque toujours un bout de sommet dans un horizon plus ou moins proche. Et comme ces reliefs se détachent sur un ciel bleu turquoise, une envie pressante de prendre un sac à dos se fait sentir. Partir à l'assaut des massifs coréens n'est plus une option, mais devient alors une nécessité. Bukansan, Bukaksan, Gwanaksan, Ingwansan. En plus des mots compliqués de la langue coréenne auxquels nos oreilles d'occidentaux doivent s'acclimater au tout début, notre latin est définitivement perdu au milieu de tous ces noms qui se ressemblent. Heureusement, on comprend assez rapidement que lorsqu'on entend « san », c'est qu'il s'agit de montagnes. Reste à savoir vers laquelle se tourner. Et le choix est vaste. À Séoul, tout commence avec ces groupes d'hommes ou de femmes, rarement mélangés, que l'on remarque aisément dans les couloirs des stations de métro, avec un équipement qui, avouons-le, nous a fait traverser de grands moments de solitude à nos débuts. Cette ligne de métro nous conduit-elle à l'Himalaya, au Mont Blanc ou au Pic du Midi ? Vais-je survivre avec mon short, mes chaussures encore poussiéreuses d'avoir trop attendu au fond d'un carton, et mon petit sac à dos dans lequel patiente un modeste pique-nique. Une fois assis dans le métro, on étudie à la dérobée avec un brin d'inquiétude la tenue et l'attirail qui semble de rigueur pour un hiker coréen digne de ce nom. Chapeau à large bord et lunettes de soleil profilées pour ces messieurs, visière dernier cri, plus ou moins assortie au reste de la tenue pour ces dames, qui profiteront du trajet pour sortir leur trousse de secours et se remettre en plus de l'indispensable rouge à lèvres, un peu de whitening, au cas où un rayon de soleil plus perspicace que les autres réussirait à traverser la première couche pourtant épaisse. Vêtements techniques aux couleurs vives pour tout le monde et qui font au moindre mouvement, pantalon, t-shirt à manches longues, cela va de soi, blouson coloré superposé avec ou sans manches, gants ou mitaines, chaussures de marche qui, curieusement, semblent toujours avoir une ou deux pointures de trop. Sac à dos bien rempli, d'où dépassent bâtons, thermos, tasses métalliques, petit tapis pliable, mini serviette éponge, mousqueton, un barda digne d'un guide de haute montagne prêt pour une expédition de survie en milieu hostile. Puis, les stations défilent et plus les passagers restant présents, présentent une certaine homogénéité par rapport au début du trajet. Fini les étudiants partant en cours, les hommes en costume et les femmes élégantes allant travailler, la rame ne transporte alors plus que de valeureux montagnards dans une tranche qui, en général, force le respect, partout à l'assaut des sommets. Surprise, une fois arrivé à destination, de constater que les chemins de randonnée nous attendent dès la sortie du métro. Après le bruit de la ville, les grandes artères, les hauts buildings, les voitures, quel bonheur et quelle chance de se retrouver directement projeté dans la nature et le calme. Quel contraste saisissant. Au cas où un imprudent aurait oublié un accessoire indispensable, de multiples magasins d'équipements longent généralement le départ de la promenade. Mais ce n'est pas le moment de faire du lèche-vitrine, car l'étape suivante consiste à trouver le sentier qui nous mènera là où nous avons prévu d'aller. Et c'est là que les choses se compliquent généralement. En sortant du métro ou du bus, nos groupes de joyeux marcheurs multicolores partent d'un pas assuré et s'éparpillent rapidement, qui à droite, qui en face, disparaissant presque aussitôt de notre champ de vision et nous laissant seuls devant des panneaux directionnels ou une carte détaillée, la plupart du temps tout en coréen. Les malins que nous sommes pensent immédiatement à regarder Google Maps. Avec ça, c'est sûr, on va y arriver. Et hélas, trois fois hélas, la logique coréenne n'étant pas forcément la nôtre, les cartes locales ne sont pas toujours, pour ne pas dire presque jamais, orientées vers le nord, ce qui, en plus de la mémorisation des noms qui se ressemblent tous et de la recherche de concordance entre ce qu'on a sous le nez et ce que nous montre notre téléphone, ne rend pas la tâche si aisée. On se contorsionne pour essayer de regarder la carte dans le bon sens, nos yeux faisant des allers-retours nerveux et de plus en plus inquiets entre notre écran de portable et le plan qui nous est proposé. On décide alors de lire à voix haute, persuadé que cela nous aidera à mémoriser le trajet visé. Les bongs, pic, suivent les sa, temple, qui se mêlent au moon, porte, nous laissant perplexes et désemparés. Heureusement pour nous, les distances indiquées sont plutôt rassurantes. 4,3 km, 2,9 km. Facile. On devrait pouvoir y arriver sans trop de difficultés. Une fois lancés, plein d'entrain et de motivation, nous déchantons rapidement en constatant que l'efficacité coréenne légendaire s'applique aussi au tracé des parcours. Pour aller d'un point A à un point B, pourquoi s'encombrer de lacets, de zigzags et de tournants? Une ligne de droite est encore ce que l'on fait de mieux, et si la pente est trop raide, quelques volées de marche feront l'affaire. Dans ce pays, une randonnée sans escalier pourrait s'apparenter à un repas sans riz. Nos efforts sont vite récompensés par des panoramas sur la ville de plus en plus impressionnants, qui font diminuer rapidement la taille des immeubles et admirer amplement l'étendue de cette capitale traversée par un large fleuve. Une satisfaction pour les yeux et pour le moral de voir à mesure que l'on monte le paysage qui s'offre à nous. D'imposants sommets rocheux, dont la couleur dorée se détache du bleu d'un ciel sans nuages, surgissent au détour d'un chemin, suscitant admiration et contemplation. En automne, des arbres aux feuilles éclatantes, accrochés on ne sait trop comment sur la pente d'une montagne, laissent passer les rayons chatoyants du soleil. Au loin apparaissent parfois un morceau de muraille, une jolie porte, un énorme Bouddha taillé dans la roche, ou des ribambelles de lanternes colorées, signalant la proximité d'un temple. Chaque pas nous rapprochant du but est un ravissement pour les yeux. Et, le long du chemin, il arrive parfois que le doux bruit d'un ruisseau à l'eau transparente accompagne en musique notre belle excursion. Néanmoins, tout ceci ne doit pas nous faire oublier l'itinéraire que nous nous sommes fixé et la faim qui commence à nous tenailler. Malgré des écriteaux plantés à intervalles réguliers et la carte papier ou numérique que l'on consulte fréquemment, les choses ne se passent presque jamais tout à fait comme on les avait prévues, et il n'est pas rare que l'on atterrisse à un endroit qui n'était pas du tout celui auquel on avait pensé. En plus de nos visages d'occidentaux, nos hésitations envoient un fort signal de notre manque d'expertise. Heureusement pour nous, le marcheur coréen essaie volontiers d'aider les pauvres amateurs en perdition que nous sommes. Mais malgré beaucoup de bonne volonté d'un côté comme de l'autre, les indications plus ou moins bien comprises nous laissent souvent rêveurs. D'autant plus que la réponse obtenue, lorsqu'on tente d'évaluer le temps qu'il nous reste à parvenir, est presque invariablement la même: 20 minutes. Quand on regarde dubitatif porté à notre équipement par notre guide d'un instant, il nous fait repartir, empli de doutes sur l'accessibilité de notre objectif. Lorsqu'on décide de viser un bong, c'est-à-dire un pic, il est bon de savoir que l'arrivée en haut peut s'avérer pour le moins acrobatique. Après les chemins et les escaliers, que nous commençons finalement à regretter après les avoir maudits, La phase finale est généralement faite de câbles et de cordes auxquels le marcheur doit s'agripper pour atteindre le sommet tant attendu. Et c'est à ce moment-là que l'on regarde avec envie ces Coréens suréquipés monter tels des cabris sans se soucier de glisser ni de se faire mal aux mains. Encore un petit effort et nous voilà enfin arrivés au point culminant de notre excursion. Une joie toujours un peu teintée d'une pointe de déconvenue lorsqu'on réalise avec stupeur que ce bout de rocher inaccessible est en fait déjà colonisé par des dizaines de groupes colorés et qu'une file d'attente s'étire pour prendre LA photo à poster sur Instagram Kakao. Hana, deux, sept, kimchi! Chacun y va de sa pose la plus naturelle possible pour immortaliser cet instant de grâce, de préférence devant le panneau ou rocher indiquant l'altitude à laquelle il se trouve. En attendant notre tour, on souffle, on dégouline, tandis qu'autour de nous, ce ne sont qu'éclats de rire, conversations animées, comme si cette grimpette n'avait été qu'une simple formalité pour tous ces randonneurs dont la plupart sont déjà installés sur des tapis, des chaussées, baguette dans une main et verre de soju dans l'autre, picorant allègrement comme s'ils étaient au restaurant. Il arrive même qu'une musique d'ambiance s'échappe d'un sac à dos posé au sol, ajoutant à ce moment de détente un petit côté festif. Dans ces moments-là, le bon sandwich à la française, que l'on a essayé de préparer vaille que vaille avec les produits locaux, a une saveur bien particulière, avoisinant un festin digne d'un resto étoilé. Sans compter la vue imprenable qui nous donne l'impression de pique-niquer sur le toit de Séoul et de toucher un coin de ciel. Il y a bien quelques odeurs dérangeantes qui viennent chatouiller nos narines, bœuf grillé, poisson séché ou kimchi, mais qu'importe, cela fait partie du folklore local. De même que ces randonneuses en pleine séance de remaquillage, ou ce couple d'amoureux, mati-mati, arrivés par miracle jusqu'en haut avec sac à main et basket de ville. Après la pause salutaire du déjeuner, il est temps pour nous de repartir pali-pali et terminer la boucle qui doit nous ramener à notre point de départ. On reprend alors la carte papier, trouvée au centre d'information du démarrage de notre parcours, qui, à force d'avoir été plié, déplié, replié nerveusement, commence à montrer quelques signes de fatigue, avec des trous ayant une fâcheuse tendance à se concentrer sur les points stratégiques. Fichtre! Retrouver notre station de métro ou notre arrêt de bus risque de s'avérer plus compliqué qu'il n'y paraît. Commence alors une descente qui ressemble à s'y méprendre à un cycle d'essorage en machine à laver. Secoué, bousculé, bringuebalé, ballotté, les genoux dans l'estomac et l'estomac dans les épaules, on regrette alors la montée tchantchani d'un pas régulier qui nous laissait tout le loisir de contempler le paysage alentour. Plus question de lever les yeux, le moindre faux pas pouvant nous entraîner dans les fesses du marcheur qui nous précède ou sur les pieds de celui qui nous suit. Si en Corée, on monte tout droit, on descend également sans faire de détours inutiles. Le point d'arrivée nous trouve éreintés et flagada, mais tellement heureux de cet exploit et de ce bol d'air bienfaisant qui nous permettra d'aborder sereinement la semaine qui vient. Les premiers jours seront sans doute un peu douloureux, nos mollets se rappelant régulièrement à notre bon souvenir pour n'avoir pas été suffisamment étirés en rentrant à la maison. Mais ce genre de désagrément sera bien vite oublié et l'on repartira les week-ends suivants avec tout autant d'entrain et un équipement de plus en plus sophistiqué qui nous donnera, le temps d'une randonnée, l'illusion d'une acculturation parfaitement réussie. Les Coréens sont de grands marcheurs, force est de le reconnaître, et la génération des Ajumma et Ajushi n'est pas la moins représentée dans les groupes que l'on croise sur les sommets, bien au contraire. Le relief omniprésent est un terrain de jeu facilement accessible où que l'on soit, et il n'est pas rare de voir de très jeunes enfants initiés à la randonnée par leurs parents. Mais en plus d'être recouverte à 70% par les montagnes, La Corée est aussi une péninsule et donc entourée d'eau. Alors, cela pourrait-il signifier que les Coréens sont aussi d'excellents nageurs? Ça, c'est une autre histoire et je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question avec autant de certitude. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour cet épisode du Petit Écotier, le podcast sur la Corée du Sud. Merci aussi à la plateforme Pixabay.com et à Music Unlimited pour le crédit musique. Merci enfin à mes amis auteurs et autrices et à l'association Séoul Accueil que vous pouvez retrouver sur séoulaccueil.com. Sur ce site, vous pourrez consulter la version numérique du Petit Écotier. Si vous avez un sujet qui vous intéresse plus particulièrement, si vous voulez participer à ce podcast, ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les plateformes de podcast et j'y répondrai. Je vous souhaite une excellente semaine, merci encore et au week-end prochain.